de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma. On peut jouer parfois, mais aussi on peut écouter des réalisateurs souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui. Sophia, tu as rencontré une réalisatrice.
Oui Vincent, j'ai rencontré Alice Douard pour son film Des preuves d'amour.
Et puis moi j'ai rencontré Dominique Moll qui présentait à Cannes en compétition officielle le dossier 137. Et puis toi Guillaume, tu n'as rencontré personne mais tu as vu deux films.
Oui, j'ai rencontré personne mais j'ai croisé Eleanor the Great, hein, le premier film de Scarlett Johansson, et j'ai croisé L'Anglaise et le Duc d'Éric Rohmer, ça fait quand même du monde.
Mais nous allons commencer par la conclusion épique où l'amitié entre Elphaba et Glinda se transforme en duel pour le destin du pays. Nous parlons de Wicked, partie 2.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Elphaba Trop, je sais que tu es là. Rentre vite avant que les singes ne te voient.
Il n'y aura pas de retour en arrière.
Wicked, la comédie musicale adaptée du grand succès de Broadway, fait son retour sur les écrans pour une deuxième ultime partie de ce qui se trame au pays du magicien d'Oz, cet imposteur. La première partie alors commençait par l'annonce de la mort de la méchante sorcière Cynthia Erivo, suivie d'un flashback racontant comment la gentille sorcière l'avait rencontrée, pour s'achever par un déchaînement de violence séparant celles qui étaient devenues amies. L'histoire devait donc se poursuivre après que la méchante sorcière se soit cachée. Dans cette partie 2, c'est l'œuvre politique qui se dévoile. À bien y regarder, évidemment, l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest qui est toute verte, hein, et la gentille sorcière du Sud qui ressemble à Barbie, c'est l'histoire des États-Unis. Dans la première partie, Elphaba, la sorcière noire, s'habitue au racisme. Dans cette partie, elle veut porter la lutte contre le pouvoir de Oz qui condamne les animaux à l'exil, et elle souhaite révéler à tous l'imposture du magicien.
Merveilleux magicien d'Oz. Personne ne croyait en vous plus que moi.
Ceux qui ont vu la première partie se souviennent de la longueur du morceau. On a gagné 20 minutes et c'est pas plus mal. Il apparaît qu'il y a moins de chansons que dans le premier segment. Alors il faut dire que cette seconde partie est plus noire que la première et qu'il s'agit d'un segment dans lequel il faut résoudre les nœuds de ce qui a précédé. Elphaba, désignée comme la méchante, mais qui est la bonne âme, arrivera-t-elle à déjouer la dictature du faux magicien d'Oz et sa conseillère en mauvais coup? Alors cette partie surfe sur une analyse très contemporaine qui va de la fake news à l'exposition de la post-vérité. C'est-à-dire qu'on explique à Elphaba que le peuple n'est pas prêt à croire qu'il y a un faux magicien car cette vérité ne l'arrange pas. Le peuple s'accommode de son aveuglement. Il y a des amours contrariés, des amours révélés, des combats, des alliances. Tout cela est assez rythmé, même si le scénario manque d'éclat, mais il y a toujours plein de couleurs. Alors au-delà de l'interprétation politique, ce qui nous intéresse d'un point de vue dramaturgique, c'est comment les deux amies sorcières peuvent se déchirer et se réconcilier. Alors ce n'est pas sans chansons dégoulinantes, évidemment. Reste tout de même No Good Dead qui scelle le destin d'Elphaba, concluant qu'aucun bon acte ne reste sans punition. Noir, c'est noir. Wicked, partie 2, est en salle depuis le 19 novembre. Un couple de femmes et l'arrivée de leur enfant conçu par PMA. Nous parlons des preuves d'amour.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Vous connaissez le test de Bechdel?
Oui.
Ah, très bien. Je pensais que ça allait sécher dans le studio, mais je suis ravie. Bon, à l'origine, c'est un petit outil d'analyse imaginé par la dessinatrice Alison Bechdel dans sa série de BD Dykes to Watch Out For. Pour qu'un film, donc, valide le test, trois critères seulement. Il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins qui se parlent entre elles et qui se parlent entre elles d'autre chose qu'un homme. Bon, rien de révolutionnaire en apparence, et pourtant, spoiler, hein, dans la BD, les deux protagonistes ne trouvent rien de tel au cinéma, et force est de constater que bon nombre de nos monuments filmiques, comme le James Bond Skyfall, qu'on apprécie beaucoup, ou Terminator 2, échouent lamentablement à ce test. Pourquoi Terminator 2, vous me direz ? Eh bien parce qu'il s'agit quand même d'un chef-d'œuvre d'action qui a inspiré Alice Doir dans l'esthétique métallique, l'étalonnage et la cohérence artistique globale pour son premier long métrage Des preuves d'amour.
T'avoir une fille, on est des filles. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle.
Ben, quand même.
Ceci étant, le film d'Alice Doir coche toutes les cases du test de Bechdel et ne se contente pas de cocher les cases. Il s'inscrit pleinement dans un female gaze assumé, une façon de regarder les corps, les gestes, la maternité et les liens familiaux depuis un point de vue éminemment féminin et politique. Sélectionné à la semaine de la critique à Cannes ou la sélection de la déléguée générale Ava Cahen, était particulièrement engagée cette année, hein, sur les questions queer notamment. Le film suit Nadia, incarnée par Monia Chokri, et Céline, surtout, jouée par Ella Rumpf, un couple donc en plein projet de maternité, confronté à l'arbitraire administratif. Après les difficultés d'accès à la PMA, les zones grises de la loi Taubira et de l'adoption par l'un des parents. Car cet enfant, c'est Nadia qui le porte et c'est Céline qui devra l'adopter au terme d'un an à un an et demi de démarche, hein, et la constitution d'un solide dossier. Le film interroge l'homoparentalité, hein, non pas comme une exception, mais comme une évidence, un chemin parmi d'autres pour faire famille.
Il est à qui ce bébé ?
C'est moi le papa, ça te va ?
On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil.
C'est merveilleux d'être enceinte.
Peut-être qu'être mère commence par être présente.
De l'amour. Faut qu'on sente l'amour.
Au centre de cette histoire, hein, un autre fil intime, invisible, relie les personnages, hein, celui qui unit Céline à sa mère, Marguerite, incarnée par l'excellente Noémie Lvovsky. À mesure que l'accouchement de Nadia approche, hein, Céline laisse remonter la voix de sa propre mère et leur relation se retisse à travers un pont émotionnel, musical, qui rend compte de ce qu'il existe d'héritage, de transmission, de soins dans la filiation. C'est aussi là que le film trouve son esthétique, sa grammaire, un mélange de douceur et de vertige dans lequel la multitude de questions relatives à la parentalité et à la place de chacun chacune s'exprime de manière sensible et universelle. Car si Des preuves d'amour parle d'un couple de femmes, il touche pourtant à une thématique encore plus vaste, hein, dans laquelle toute personne, qu'importe le genre, peut se reconnaître. Eh bien, comment on devient parent, comment on hérite, comment et avec qui on décide de se construire. On écoute Alice Doir nous parler de son très beau premier film, Des preuves d'amour.
Le film est une réponse à des caricatures qui ont été véhiculées au moment des manifs pour tous, au moment du projet de mariage pour tous, et qu'on avait des visions et des discours très binaires, et que je voulais revenir à quelque chose de simple, qui est qu'est-ce que c'est que d'attendre un enfant pour la première fois, encore une fois, qui arrive à pas mal de gens, et remettre l'amour au centre de ces récits. Et le film est avant tout un film d'amour, parce que la question de l'amour a toujours été éludée au profit de la question de quelque chose d'hyper marginal et même de commercial. On parlait beaucoup de ces homosexuels vont acheter des enfants. Il n'est pas question d'acheter des enfants. On porte des enfants et on les élève. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un film qui ne soit pas une réactivation des violences et des discours, mais plutôt le film d'après où on dit bah, ça existe et ça peut être joyeux et il y a une possibilité d'amour et de joie dans ces familles. Voilà.
On va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps, tous les jours.
Depuis 2021, avec la loi bioéthique, en fait, l'autre maman peut faire une reconnaissance anticipée auprès d'un notaire et donc apparaître sur l'acte de naissance. Un enfant peut naître avec deux mamans maintenant. Mais il faut que cet acte notarié soit fait, ou notarial, je sais pas comment on dit, soit fait avant même la grossesse. Et il y a aussi des couples qui ratent encore le créneau, et donc le dossier d'adoption existe encore dans certains cas. Mais la loi quand même évolue rapidement, puisque donc en 2013 on peut adopter, 2021 ça y est, la reconnaissance anticipée est possible. Donc moi je trouve que voilà, on a mis des siècles avant d'arriver quelque part, mais que là les choses s'accélèrent un peu, et je suis plutôt positive malgré les retours en arrière qu'on voit dans plein d'endroits du monde. Je pense qu'on a pour l'instant, nous, beaucoup de chance et que c'est bien aussi de montrer ces récits et ces personnages pour que l'histoire ne régresse pas, quoi.
Vous avez fait comment, alors ?
Ben, on a fait l'amour.
Ah, ben oui, non.
C'est une fille.
Oui.
Ah, c'est bien, tant mieux.
T'as pas peur d'être jalouse?
Jalouse de quoi?
On a eu un temps normal de montage. C'est pas un film qui s'est beaucoup cherché au montage dans son récit. Il est assez proche du scénario. Mais par contre, on a cherché vraiment le rythme, les moments où il faut laisser la rumpf, mais il faut pas trop la mettre, sinon après il y en aura trop. Faut pas être complaisant. Enfin, parce que c'est quand même des défis quand on a des acteurs comme ça qu'on a envie de regarder. Faut pas trop les mettre non plus, quoi. Et puis après, on a. C'est aussi un gros travail de son, ce film, parce qu'il est très dialogué et parce qu'il y a beaucoup de musique. Et un gros travail d'étalonnage parce qu'on voulait justement une image un peu particulière qui serait un peu distordue, qui serait déjà comme un souvenir, mais contemporain.
Tu peux me garder Erika, s'il te plaît?
Ah non, non, je... voilà.
Tu voulais t'entraîner, non?
Attends, reste là, on est solidaires maintenant.
Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Ah non, je suis pas payée pour ça, hein.
Bah ça, c'est les questions qu'on se pose à chaque séquence, c'est-à-dire est-ce qu'on réunit ces personnages dans un plan ou est-ce qu'on les sépare selon les moments du récit? On essaye d'avoir un découpage qui est cohérent avec les émotions et les trajets des personnages. Le film est aussi pas du tout qu'à l'épaule, il y a beaucoup de travelling, il y a aussi beaucoup de plans fixes, il y a aussi beaucoup de panneaux. Je pense qu'on a eu une grammaire de cinéma où on s'est dit c'est un tel tourbillon qu'il faut mélanger toutes les grammaires. Et effectivement, les grammaires sont différentes d'une scène à l'autre selon les personnages qu'elles rencontrent ou les états émotionnels qu'elles traversent. Et les filmer ensemble ou séparément, ça a été vraiment la question centrale, aussi avec la mère. C'est-à-dire à quel moment elles sont séparées dans un cadre, où est-ce qu'on les rejoint? Et puis il y a aussi des moments où Ella est toute seule et puis Monia vient la rejoindre. C'est aussi la question de... On peut aussi rentrer et sortir d'un cadre. En tout cas, on a toujours suivi le point de vue d'Ella, enfin, c'est Ella Céline, du coup. Et on colle au point de vue de Céline tout le film. Et les personnages, quand même, gravitent autour.
C'était pas instinctif de t'imaginer couché avec une fille?
Imaginer ta fille couchée avec un mec, ça, c'est instinctif.
Non, non, tiens ton air, tiens ton air, retiens ton air.
Ah, j'ai rigolé, toi.
Moi, c'est bon, on m'a compris que t'étais enceinte.
Ça va, hein, toi, tu peux vivre ta vie. Moi, je fais tout le boulot et je suis obèse.
Terminator. Il y avait aussi, non, mais la façon dont est filmé ce jeune John Connor dans le Terminator 2, donc Edward Furlong, il a vraiment quelque chose de hyper poétique et une cinégénie folle. Et je trouvais que Ella, elle avait un truc un peu commun, Ella Rumpf. Et avec Jacques, en fait, le chef opérateur, on a essayé de l'éclairer de cette façon-là, de manière un peu métallique, comme les Terminator 2. Donc en fait, on éclairait des plaques de métal et par rebond, les visages étaient éclairés. Et donc ce truc légèrement métallique qui donne un peu. Une spécificité un peu à l'image du film vient d'une recherche à partir de Terminator 2. Voilà.
C'était Alice Doir sur Des preuves d'amour.
Et ce film est en salle depuis le 19 novembre. Après une perte, une vieille femme reprend à son compte l'histoire d'une de ses amies rescapée d'un camp de concentration. Nous parlons du premier film de Scarlett Johansson.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama.
Lorsqu'on parle de Scarlett Johansson, on pense forcément belle blonde hollywoodienne, glamour, élégance et autres superlatifs assez superficiels. Les plus cinéphiles ne pensent pas aux errances Marvel, à la nullité de Jurassic World ou même au pourtant amusant The Island de Michael Bay, mais au fait qu'elle a été révélée par le monde du cinéma indépendant et d'auteur, faisant des merveilles dans Ghost World, se mettant à nu en alien David Bowie-esque dans Under the Skin ou participant au chapitre européen passionnant de Woody Allen dans les années 2000 avec Matchpoint, Scoop ou encore Vicky Cristina Barcelona. Scarlett Johansson, c'est aussi une voix qui s'est essayé au chant avec l'album Anywhere I Lay My Head en 2008, reprise toute personnelle de Tom Waits. Et bien pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Scarlett Johansson, c'est un peu tout ça mélangé. Un regard d'auteur dépouillé à la Allen, une reprise de choses qui lui tiennent à cœur, et le tout avec une franchise et une simplicité désarmante. Un choix audacieux qui force le respect.
Pars en voyage, Eleanor.
Je retourne m'installer à New York.
À New York, toi?
Contente de t'avoir connue, Clarisse. Dis au revoir à Melvin de ma part.
On a passé un merveilleux moment l'autre soir. C'est une force de la nature.
Car Eleanor the Great ne figurera assurément pas dans le classement des films les plus rentables de l'année, soyez-en sûrs. Alors pour son baptême du feu, Scar Jo affiche une volonté assumée de fuir tout glamour et superficialité en se concentrant sur l'histoire de June Squibb, une nonagénaire qui incarne la Eleanor du titre à un moment décisif de sa pourtant déjà conséquente existence. Sa meilleure amie Bessie, avec qui elle vivait en Floride suite à la mort respective de leur mari, décède et laisse un grand vide dans la vie et le cœur d'Eleanor. Alors désormais seule, elle rentre à New York hein, chez sa fille et son petit-fils, mais comprend qu'elle n'est pas forcément la bienvenue en raison de son âge bien avancé et de sa manière de s'approprier le monde. Pour tuer le temps et essayer de trouver avec qui échanger puisqu'elle n'intéresse pas sa famille, elle se rend au centre culturel juif pour rejoindre la chorale, mais se trompe de salle et rejoint un groupe de survivants de l'Holocauste. Alors se sentant coincée et étant très attachée à l'histoire personnelle de Bessie, rescapée des camps et dont la déportation de la famille lui pèsera chaque jour et chaque nuit jusqu'à la toute fin, Éléonore décide de la raconter, mais en omettant que ce n'est pas son histoire à elle. Éléonore a à peine le temps de digérer le fait qu'elle a menti qu'elle reçoit une sollicitation de Nina, une jeune fille qui cherche à devenir journaliste et qui est touchée par cette vieille dame. Cette souffrance intérieure de la perte d'un être cher et d'une façon prématurée et injuste, Nina, elle la connaît bien puisqu'elle traverse encore le deuil de sa mère et a du mal à communiquer tout ce qu'elle a sur le cœur à son père. Ce duo improbable, mal assorti, va devenir inséparable. Mais à quel prix et que vaut la vérité face au deuil ?
Tu dis tellement de conneries, Eleanor !
Ah oui ?
Figure-toi que je l'ai vue l'autre jour.
Blonde.
Rebecca ?
Oui, tout à coup, elle était devenue blonde.
Avec un tel sujet, ScarJo marche sur un fil invisible qui manque de se casser à tout moment, mais la jeune cinéaste trouve toujours une solution pour s'en sortir. Alors comment faire une comédie sur une vieille en personnage principal ? Eh bien en trouvant une aussi pétillante et émouvante que June Squibb. Comment parler du deuil insondable, de l'anéantissement de l'Holocauste, un traumatisme à vie, à la fois personnel et communautaire ? Eh bien en recrutant de vrais survivants hein, pour constituer les membres du groupe de parole du centre juif. Comment justifier hein, ce mensonge qui est quand même un peu beaucoup douteux ? Eh bien en faisant une porte d'entrée vers une réflexion plus profonde sur la disparition et ce que nous laissent les gens quand ils partent. C'est le point de départ du film et la plainte déchirante de Bessie sur son lit de mort. Lorsqu'elle ne sera plus là, plus personne ne saura que son frère a existé. À quoi tient la mémoire ? Que restera-t-il de nous ? Que faire face au néant de la mort ? Autant de perspectives que le mensonge d'Eléonore va permettre de creuser entre cette discussion croisée avec Nina, séparée par 70 ans d'existence. Un sujet hein, également intime pour ScarJo, puisqu'elle a appris récemment qu'une partie de sa famille avait disparu dans la Shoah, et à qui elle rend hommage aujourd'hui. Alors formellement, il n'y a aucune étincelle, hein, la jeune cinéaste réduisant à sa forme la plus simple son fond, en forme de version light hein, de la mise en scène de Woody Allen. On aurait aimé hein, qu'elle émule plus les tourments personnels de ses personnages à la manière du Stardust Memories de celui qui fut son mentor, mais bon. Eleanor the Great hein, a obtenu le prix du public au dernier festival de Deauville, et on espère qu'il trouvera le cœur du grand public maintenant bah, qu'il est sur nos grands écrans.
Alors, c'est pas à gagner forcément parce qu'il n'est pas sur beaucoup d'écrans français alors qu'il existe une version française, ce qui est très étonnant. Alors moi, il se trouve que je l'ai vu à Cannes, ce film, et il dépareillait pas forcément avec tous les autres films qu'on voyait dans la compétition, si ce n'est qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a aucun éclat de mise en scène, mais qu'elle se tient formellement à son sujet, sur cette femme qui est mythomane, hein, mais voilà, qui a une raison de l'être. Voilà.
Ouais, c'est vraiment, faut le souligner, c'est quand même un choix vraiment pas évident pour un premier film. Hein.
Probablement. Donc, Scar... Comment tu l'appelles ?
ScarJo.
ScarJo. Son film, Eleanor the Great, est en salle depuis le 19 novembre. Un jeune homme blessé par un tir de LBD. Il faut trouver le coupable. C'est un policier et c'est à Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices, de le trouver. Nous parlons de dossier 137.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Dossier 137, le film de Dominique Moll qui était en compétition à Cannes, va donner un nouvel éclairage aux images que vous avez peut-être vues hein, de gendarmes lors des opérations de maintien de l'ordre à Sainte-Soline et ses méga-bassines. Après la nuit du 12, où le réalisateur a mis le spectateur face à une enquête sur un féminicide qui ne trouvera pas de conclusion, il nous place cette fois-ci auprès d'une enquêtrice de l'IGPN, soit la police des polices, service en charge de contrôler, enquêter et évaluer l'action des policiers en France. Stéphanie, qu'incarne à merveille Ilia Drucker, est chargé de faire la lumière sur un tir de LBD qui a sérieusement blessé un jeune homme en marge des manifestations des Gilets jaunes. Ce jeune homme était venu en famille de Saint-Dizier dans la capitale, pour ainsi dire presque en tant que touriste. Hein. Ils sont montés dans un petit van, il y avait la Jo Dassin en musique, tout allait bien. Et il en repartira meurtri de cette capitale et en mal de justice. Qui lui a tiré dessus et pourquoi ? C'est avec minutie que Dominique Moll montre le cheminement d'une enquête, ne faisant pas l'impasse sur l'aspect alors répétitif hein, des divers documents à toujours solliciter simplicité. La fluidité est obtenue grâce à un montage vif qui alterne alors les interrogatoires, les reconstitutions, ces fameux documents à obtenir et puis les moments de vie de l'enquêtrice. Le nœud du film, c'est qu'une vidéo d'un drame, puisqu'elle est retrouvée, même si elle est disponible, eh bien, n'éclaire pas forcément la vérité. Elle est soumise à interprétation. Et les policiers accusés de déroger à leur mission eh bien, s'en servent, quel que soit leur grade. Ils usent des mêmes procédés finalement que n'importe quel délinquant qu'ils arrêtent. Dominique Moll ne cherche pas à incriminer ou stigmatiser la police, mais éclaire brillamment ce que l'on peut attendre d'un état de droit qui doit toujours garantir la justice entre les citoyens. Ce film, Dominique Moll s'en explique dans l'entretien que nous avons eu avec lui. Ce film lui a été inspiré par les mots d'Emmanuel Macron qui signifiait qu'il n'y avait pas de violence policière dans un état de droit. Ah bon ? On écoute Dominique Moll.
Disons qu'il y a eu un double mouvement ou une double envie ou une double curiosité, je ne sais pas. Enfin, d'une part, une envie de continuer à explorer l'institution policière et notamment l'IGPN qui m'a toujours intéressé aussi parce qu'on n'en sait pas grand-chose et qu'elle n'a jamais été traitée, en tout cas de façon, enfin, au premier plan dans un film ou une œuvre de fiction. Et que la position de ces enquêteurs qui enquêtent sur d'autres policiers m'intéressait parce qu'elle paraît un peu impossible à tenir, parce que d'une part, ils sont méprisés par leurs collègues et qu'ils sont aussi critiqués par certains médias qui leur reprochent d'être jugés partis. Donc je me disais, voilà, c'est une position intéressante pour un personnage. Comment est-ce qu'il se débrouille là-dedans? Comment est-ce qu'il fait bien ou mal son travail? Et dès le début, je savais, parce qu'il s'occupe évidemment aussi de cas de corruption policière, etc., mais dès le début, je savais que moi, je voulais que ça soit un cas lié au maintien de l'ordre et sur une violence policière.
Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
Les flics, là, qu'on fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait.
Mais tu baisses d'un ton, là.
Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien.
Pour moi, c'est un vrai film de fiction. Enfin, c'est un film de genre avec une enquête policière. C'est effectivement très recherché et très documenté parce que je trouve que dans la manière dont se passent les choses réellement, il y a des pistes de fiction, des choses, des éléments fictionnels qu'on n'arriverait pas forcément à inventer, et que je tenais aussi, comme je l'avais déjà fait un peu dans La Nuit du 12 pour la PJ, de raconter vraiment leur travail, y compris dans le côté ingrat, c'est-à-dire sur le temps qui passe à écrire les PV, la répétition, les policiers qui défilent et à qui on pose les mêmes questions et on reçoit les mêmes réponses plus ou moins teintées de mauvaise foi. Voilà, tout ça, mais tout ce côté ingrat, mais qu'il fallait évidemment montrer de façon intéressante. Il fallait pas que ça devienne ennuyeux.
Comment vous justifiez votre geste ?
Je sais qu'une des choses qui a aussi été un déclic presque, ou une motivation pour le film, c'est quand j'ai re-entendu Emmanuel Macron qui disait pendant une réunion comme ça, un échange avec des citoyens, où quelqu'un l'interpellait sur les violences policières et où il a dit « Madame, il est inadmissible de parler de violences policières dans un état de droit ». Là, je me suis dit, il y a quand même un gros problème. Enfin, déjà, s'il y a un endroit où on peut en parler, c'est dans un état de droit. Et il y a toujours cette confusion de si on nomme les choses, dit il y a des violences policières, il y a des policiers qui ont un problème avec la violence. Ça ne veut pas dire qu'on condamne toute la police. Ça ne veut pas dire que... Enfin, moi, je pense que dans une démocratie, la police c'est nécessaire d'avoir une police, mais une police qui soit là pour le... qui soit gardien de la paix et pas que force de l'ordre.
On nous a dit que la République était en danger.
On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents.
Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue.
Le gouvernement était en panique.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez ?
Mais sur les images, on voit pas bien.
Ah bon ?
Il me semble au contraire qu'on voit très bien.
Pour répondre à la question sur Léa Drucker, alors j'ai pas écrit pour elle. J'ai commencé à écrire comme ça. Et puis après, quand on écrit, on essaye toujours d'imaginer un peu des comédiennes ou des comédiens. Mais c'est vrai que assez rapidement, quand même, voilà, son visage revenait régulièrement. Et petit à petit, je me suis dit, voilà, il faut que ça soit à elle. Moi, j'avais déjà travaillé une fois avec elle en 2015, c'est ça. Mais bon, elle avait un tout petit rôle, mais on s'était bien entendu. Évidemment, j'avais suivi sa carrière. Et voilà. Et donc, à la fin de l'écriture, une fois qu'il y avait une première version, pour moi, c'était... Enfin, j'avais très envie que ça soit elle. Je lui ai fait lire le scénario. Elle a dit oui tout de suite. Donc, j'étais très, très content de ça.
C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place?
Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police.
Ils sont jamais sanctionnés.
Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats.
Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand?
Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble?
Je sais plus, moi.
C'était Dominique Moll, le réalisateur de Dossier 137, film absolument remarquable dans une période où je pense qu'il n'y a jamais eu autant de déborgnés en France. Ce film est en salle donc depuis le 19 novembre. Le drame historique d'une aristocrate anglaise prise au piège de la Révolution française et de la terreur qui s'abat sur Paris, nous parlons d'un film sorti il y a bien longtemps, L'Anglaise et le Duc.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
En 2001, Eric Rohmer adapte les mémoires de Grace Elliott, une aristocrate anglaise vivant à Paris qui fut témoin des événements entourant la Révolution et son évolution en la terreur. L'événement ne vient pas du fait que Rohmer retournait après la marquise d'Ours en 76 et Perceval le Gallo en 78 au film historique, mais qu'il allait, à sa manière, participer un peu en parallèle à la Révolution digitale qui est en train de s'opérer au même moment en France et aux États-Unis. Vidoc de Pitoff devenait le tout premier film intégralement tourné en caméra numérique haute définition un an avant l'attaque des clones de George Lucas. Et même si les trublions du Dogme 95 avaient joué avec des caméras DV à la fin des années 90, personne n'avait utilisé sur un long métrage le numérique comme Rohmer, à savoir reproduire une époque qui n'existe plus en mêlant peinture et acteurs réels.
Je respecte votre affection pour une monarchie qui ne la mérite pas. Mais je n'en veux à personne au sujet de ses opinions sur la Révolution. Et je désire qu'on fasse de même pour moi. Mais d'un côté comme de l'autre, on n'a pas ma tolérance, hélas.
L'Anglaise et le Duc plongent donc ses protagonistes dans des plans qui sont en fait littéralement des tableaux, fait pour l'occasion par Jean-Baptiste Marot. Alors le parti pris de Rohmer paie parce qu'il donne un cachet passionnant à l'esthétique du film. Et le film fait la part belle, Rohmer oblige au dialogue, on s'habitue aux beaux plans fixes. Mais lorsqu'on passe au plan truqué, ils font sortir de leur cadre Grace Elliott et son entourage dans un délicieux mélange d'artificialité et de livres d'images heureusement bien loin de l'horreur visuelle qu'était Perceval le Gallois. Alors ne pouvant filmer un Paris et une France qui n'existent plus, Rohmer a trouvé une idée brillante pour nous replonger dans une époque à la fois glorieuse et sinistre, et anticiper de quelques années les tournages de films sur fond vert intégral comme l'excellent Capitaine Sky et Le Monde de Demain de Kerry Conran en 2004. Alors au-delà de la belle mise en scène à la Méliès, ici sublimée par la nouvelle restauration 4K, n'oublions toutefois pas de saluer l'excellence du casting, dont ce qui est probablement le plus beau rôle et de loin de Jean-Claude Dreyfus sur grand écran.
Et L'Anglaise et le Duc, c'est dans quelques salles en France. Scrutez vos cinémas.
This is Cinérama. Cinérama.
Puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, parlons de Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Le septième film de la saga est vraiment une réussite en tout point. Tout d'abord en s'intéressant à un Yutia, un de ceux qui se fait rétamer par Schwarzenegger dans les années 80. Il faut s'intéresser alors aux deux énoncés du titre, le Predator, un membre chétif de son espèce qui doit montrer sa valeur, et puis Badlands, la sale terre littéralement, la planète sur laquelle il doit débusquer une bête redoutable. Une planète où la moindre liane vous attaque, la fleur menacée vous explose au visage et où les anguilles vous dégomment. Cette aventure, alors elle est vraiment remarquable car non seulement elle est pleine de surprises et d'inventivité, mais elle est aussi finement orchestrée avec de solides effets spéciaux et une mise en scène vraiment efficace. Notre héros Predator alors n'est pas seul sur cette planète, il rencontre une humanoïde interprétée par Elle Fanning à qui il manque les jambes. Elle veut les retrouver, ses jambes, lui veut son gros butin, ils vont donc s'entraider. C'est quasiment un buddy movie avec deux personnages que tout oppose. Les prédateurs sont quand même relativement hideux, tandis que Elle Fanning Ming et son teint blanc apaise. Lui, c'est un guerrier, et puis elle, eh bien, c'est une bavarde mise au point par la Weyland Yutani Company. Et oui, la même que dans Alien. Action soignée, légèreté, interrogation sur le sens de l'empathie. Predator Badlands est une belle pépite pour qui aime l'action, la science-fiction, et puis, eh bien, la découverte de nouveaux mondes.
Donc avec Eleanor The Great, c'est le deuxième buddy movie de la semaine.
En quelque sorte.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, Guillaume, tu auras deux films.
Oui, un film qui s'appelle L'Intermédiaire et puis la reprise du chef-d'œuvre absolu de John Woo, The Killer.
Et puis toi, Sophia, tu as vu une nouvelle fois une réalisatrice.
Oui, j'ai pu interviewer Kauter Ben-Anya pour son film La Voix de Hind Rajab.
À la semaine prochaine.